assis quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé. Dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez. L'ivresse, déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise.
Allez go, c'est parti, on est parti. Bonjour à tous, c'est Anne Bessel. Bienvenue dans Bigre, l'émission qui s'entretient de sacré et de spiritualité. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enfance. On va se demander comment intégrer une dimension spirituelle à l'éducation de nos enfants, hors des dogmes et des religions établies pour tous ceux qui ne sont pas croyants. Comment éveiller sans conditionner, transmettre sans asséner, et comment surtout développer la force intérieure, la force tranquille de son enfant, pour lui permettre ensuite, on l'espère, d'affronter les épreuves de la vie. Avec moi en studio aujourd'hui deux femmes, Sophie Dejean-Bouillet et Céline Tesnier, à qui, avant de les présenter, je vais poser la question rituelle de l'émission. Céline, Sophie, de quoi vous enivrez-vous ?
Du fait que tout soit possible. Et de vin aussi, un peu parfois.
Alors moi, ça va être de ce grand tout qui nous entoure et de chaque petit instant qui peut paraître des fois fabuleux.
On va parler de tout ça pendant une heure. On est pendant une heure ensemble, toutes les trois. Je vais vous présenter Sophie Dejean-Bouillet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Tu as 30 ans, tu es nantaise depuis toujours. Tu as été tapissière d'ameublement pendant 5 ans. Puis tu as décidé de changer de métier car tu voulais trouver un sens, donner un peu plus de sens à ton activité professionnelle. Et donc tu portes aujourd'hui un beau projet citoyen qui s'appelle l'école, qui est une école démocratique.
Le lieu des possibles.
Le lieu des possibles. Joli nom.
Merci.
En parallèle duquel il se trouve que tu présentes une émission de radio sur cette belle radio qui est Jet FM.
Exactement.
Ton émission s'appelle Vers une éducation positive. Et elle met en lumière des personnes, des outils, des initiatives qui, selon toi, vont vers une éducation positive. Et pas plus tard qu'à l'instant, en fait, tu viens d'interviewer pour ton émission une certaine Céline Tesnier. Céline, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as 37 ans et toi aussi, tu as choisi de faire un virage de vie à 360 degrés, on peut dire.
C'est ça.
Puisque tu as d'abord suivi des études scientifiques, tu as été responsable qualité dans des grandes entreprises.
Oui.
Et après ce parcours plutôt cartésien, tu es aujourd'hui ce que tu appelles une coach intuitive.
C'est ça.
Et tu as créé un site appelé Instant Sérénité.
Tout à fait.
Alors, première question, qu'est-ce que c'est qu'une coach intuitive et comment tu t'es retrouvée à faire ce changement de vie-là ?
Alors, une coach intuitive, en fait, c'est vraiment l'alliance de deux particularités. Il y a la partie coach, là, ça va vraiment être l'accompagnement des personnes dans une sphère plus psychologie, thérapeutique, la sphère dite cartésienne, structurée. Donc ça, c'est une partie de moi. Et puis la sphère intuitive, où là, c'est plutôt ma connexion avec tout ce qui est énergétique, ressenti, spiritualité. Donc je prends souvent cette image, même si on l'a déjà entendue, du garagiste de l'âme. Donc il y a la voiture et puis il y a l'essence. Et puis des fois, c'est le capot qu'on a besoin de soulever pour aller voir ce qui se passe dans le moteur. Et puis des fois, c'est juste refaire le plein d'essence. Voilà.
Et donc parmi les gens que tu accompagnes, il y a des enfants aussi.
Tout à fait, voilà. Et puis je suis également maman de 3 enfants, donc c'est un accompagnement au quotidien.
Toi, Sophie, ça te parle, ce changement de vie là, que tu as vécu aussi, toi, finalement ?
Oui, complètement. Ça a été un changement de travail et ça a été un changement de vie. J'ai travaillé justement avec Céline, qui a été ma coach pendant bien 6 mois. Oh, oui. Et qui m'a permis en fait, de changer ma vie, tout simplement. Donc, de remettre à plat toute mon éducation, de savoir ce qui m'appartenait ou non, de ce que je voulais garder ou non. Et donc, ça a été... le changement de la vie, parce que du coup, on donne du sens à ce qu'on veut faire, à qui on est. on se connaît. Et donc, à partir de là, ça, potentiellement, ça peut changer des choses. Et moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, j'ai décidé de créer ce sens qui a été un long chemin quand même, parce qu'on a travaillé donc ensemble pendant 6 mois. Et puis, après, il y a eu la décision de changer de travail. Et il y a eu quoi faire, en fait, parce que c'est très beau de vouloir changer de travail et de vie. Sauf qu'il faut savoir ce qu'on a réellement envie de faire, ce qui a vraiment du sens, ce qui est juste dans notre vie. Et donc, ça a été un chemin de... un an de formation et de travail sur moi. Et après, c'est un travail de vie. Je pense qu'on est tous là pour travailler sur des choses. Et que donc, c'est la continuité de la vie. Je pense avoir trouvé mon chemin de vie. Et donc, d'être là pour accompagner, entre autres, les enfants.
Donc, ton projet d'école démocratique est né grâce à Céline.
Entre autres, je pense que c'est grâce à moi. Ça a été un accompagnement.
Non, je dis non, parce qu'en fait, c'est jamais grâce au coach ou à la personne qui accompagne. C'est grâce à elle-même. C'est elle qui a mis en place l'énergie nécessaire pour faire ses chemins de vie. Moi, je ne suis qu'un révélateur, un effet miroir. Et je suis là pour aller l'aider à explorer des zones qu'elle ne serait pas allée voir sans moi. Mais moi, je ne suis pas responsable du tout de ses choix de vie. J'en suis très fière aujourd'hui. Et c'est des coups de cœur. Et cette émission aujourd'hui est un beau clin d'œil pour elle et pour moi, je pense. Donc, je suis ravie de le partager avec vous. Mais c'est jamais grâce au thérapeute qui accompagne, non. Ça serait de l'ego de ma part.
Ce serait réducteur.
Oui.
Oui, et puis je pense que c'est grâce à moi, effectivement. Céline m'a permis de mettre des choses sur mon chemin pour avoir confiance en moi, pour déclencher des choses et me donner la confiance que je pouvais le faire. Et tout est parti de là, effectivement. Donc, c'est grâce à moi et à elle de plus loin.
Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est que cette école démocratique ?
Oui, bien sûr. Alors, une école démocratique, c'est une école où on scolarise ses enfants. Ça n'est pas un substitut à l'école classique. C'est une école dans laquelle on met justement en avant cette confiance en soi et l'autogestion des jeunes. Et là, particulièrement dans le lieu des possibles, j'ai intégré le retour à la terre, qui me paraît essentiel, en fait, parce que tout ce travail d'un an et demi de recherche sur moi m'a fait poser les questions de d'où on venait, pourquoi on est sur cette terre, en fait, et quel est notre chemin. Et donc, j'ai réalisé qu'effectivement, on était tous des enfants de la terre et qu'en fait, on ne la connaissait plus, qu'on grandissait sur du béton et que, en fait, c'était un joli décor qu'on s'était créé et qui n'est pas si joli que ça. Et que c'était indispensable de savoir d'où on venait, comment on créait notre nourriture. Parce que c'est ça, en fait, pourquoi on est sur terre, quels sont nos besoins primaires, c'est quand même cela. Et qu'on sache y répondre, c'est pour moi fondamental. Et à partir de ça, c'est la base de la construction de soi, de la confiance en soi. Et de savoir qu'on peut s'apporter à soi-même, finalement. Et donc, on a aussi besoin de la société, parce que, seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Et c'est ça, c'est créer tout ça avec les enfants et à des accompagnateurs qui sont là pour mettre, justement, un peu comme un coach, de permettre aux jeunes de développer qui ils sont. Sans leur dire qui ils sont, parce qu'on n'en sait rien, on peut pas, je ne peux pas savoir à ta place si tu as froid ou si tu as chaud, on est les seuls maîtres de nos vies et de nos ressentis. Et donc c'est vraiment ça, accompagner les jeunes dans ce chemin de savoir qui on est, sans avoir la domination d'un adulte qui pense savoir mieux que les jeunes.
J'ai vu donc sur le site que tu présentes l'école avec comme intitulé « Sans programme, sans notes, sans prof ».
Exactement, parce que c'est le cas. Après, j'aime pas trop présenter l'école comme ça, parce que ça fait assez négatif et voilà, j'aime bien parler de ce qu'il y a plutôt que de ce qu'il n'y a pas. C'est juste que ça dénote et déroute un peu par rapport au chemin classique. Donc je trouve que c'est important de le dire et en même temps, ce n'est pas l'image première de cette école-là. C'est d'abord l'autonomie, la confiance en soi, l'autogestion. Et effectivement, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de notes. On est là en tant qu'être humain, en tant que jeune, pour savoir qui on est. Et donc, on est des accompagnateurs et non des profs, dont je ferai partie. C'est accompagner au mieux nos jeunes pour qu'ils soient bien, pour créer la société de demain.
Et alors, comment ça se passe au niveau démocratique ?
Alors,
qu'est-ce qui est voté, par exemple ?
Exactement. Alors, pourquoi c'est une école démocratique ? Parce que le fonctionnement y est démocratique. Donc, on fonctionne en conseil d'école, qui se passe une fois par semaine. Et donc, tout est voté par les jeunes. Et donc, ils créent leurs activités. Donc, on vote à savoir si on va faire venir un musicien, si on va faire du basket. Si, voilà. Donc, chacun est à l'initiative d'un projet, d'une activité. Après, les autres suivent ou non. Et puis, ça permet de pouvoir exprimer toutes les idées, toutes les opinions. Il n'y a pas de moins bonnes ou de mauvaises idées. C'est les idées, elles sont là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et du coup, on vote.
Donc les élèves comme les accompagnateurs votent.
Exactement, c'est uniquement l'avis de le noyau dur de l'école, donc effectivement les jeunes et les accompagnateurs.
Et donc les jeunes, ils ont quel âge ?
Ils ont entre 3 et 19 ans et plus. On met un peu dans une case, on répond à la demande classique de l'État français de scolariser de 3 à 19 ans. Et bien sûr, si des adultes ont envie de venir, au contraire, l'école est ouverte à tous. Mmh. Parce que j'ai très souvent entendu des adultes me dire « Oh là là, aujourd'hui, si j'étais à l'école, j'adorerais refaire de l'histoire, du français. » Eh bien, venez avec grand plaisir, parce que c'est ça. La vie, on vit tous en famille, avec des parents, des enfants plus jeunes, plus vieux, des grands-parents, des frères et sœurs, des oncles, des tantes. Et c'est un peu ça, en fait. C'est créer une famille de la vie. Tout simplement.
Donc, pour revenir sur cette question du vote, ça veut dire qu'un enfant qui a 3 ans va voter ?
Alors, non, effectivement, le vote commence à partir de 6 ans.
Ok.
Après, j'ai du mal, moi, à dire s'ils sont capables de voter. On leur demandera quand même leur avis, parce qu'un enfant de 3 ans peut donner son avis. Mm-hmm. Effectivement, ça ne se formulera pas forcément par un vote en tant que tel. C'est à partir de 6 ans. Et en même temps, si un enfant de 5 ans est capable de s'exprimer et a envie d'aller voter, on respectera ça.
Et donc ce projet, il en est où pour le moment ?
Alors ce projet, il est entièrement monté. Il nous manque uniquement le lieu que l'on recherche, qu'on l'on veut le plus proche de Nantes, le plus grand possible en espace de surface extérieure. Donc on attend entre 2, 3 et puis pourquoi pas plus d'hectares, au contraire. Ce ne sera jamais trop grand. Et un espace de vie entre 300 et 400 mètres carrés minimum aussi.
Mmh. Où voilà. On puisse jardiner aussi.
Ah oui, ça c'est la base de l'école. Donc c'est pour ça que les hectares, on les prend avec grand plaisir.
Toi Céline, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, j'ai deux avis, deux casquettes en fait par rapport à ce projet-là. J'ai la maman, parce que je suis maman de 3 enfants. des enfants dits un petit peu à part, puisque j'ai des enfants hypersensibles au potentiel. Voilà, donc qui effectivement n'ont pas toujours... su trouver leur marque dans l'éducation standard qu'on propose aujourd'hui au niveau du système scolaire. À la fois, ils arrivent quand même à s'adapter. Donc voilà, j'ai ma petite dernière qui effectivement est un profil un peu différent, qui je pense s'éclaterait dans ce genre de structure parce qu'effectivement elle a une compréhension de la vie et une attente des choses qui est bien au-delà du système scolaire qu'elle trouve très enfermant et assez ennuyeux. Mmh. Voilà, pour reprendre ses mots de petite fille de 7 ans. Donc d'un point de vue maman, je trouve que c'est une super belle initiative. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que notre société évolue assez lentement, en fait, sur ce système éducatif, parce que les enfants ne sont plus dans les mêmes attentes, les familles ne sont pas dans les mêmes attentes. Je trouve que c'est assez archaïque et assez enfermant. C'est-à-dire que là où je fais le lien, et c'est ma deuxième casquette, là, ça va être la casquette de la coach intuitive, on ne peut pas, aujourd'hui, fermer les yeux sur ce qui se passe au niveau société et se rendre compte que nos attentes ne sont plus celles d'il y a quelques années et qu'on a des enfants particulièrement éveillés. Donc je crois que c'est la thématique d'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'on parle de spiritualité, on parle d'énergie, on parle d'intuition, enfin voilà. Les enfants n'ont plus envie d'être enfermés dans une case ou scotchés sur une chaise à apprendre bêtement ce qu'on leur demande d'apprendre et sans y mettre du sens. Donc moi, je ne suis pas une rebelle de l'éducation standard, mes 3 enfants sont dans le système éducatif standard et à la fois, je constate au quotidien que c'est important. D'y mettre de la souplesse et d'arrêter de rester figé. Donc le projet, je trouve qu'il a tout son sens aujourd'hui. Il peut faire un petit peu peur, c'est-à-dire qu'effectivement, le sans programme, le sans note, alors on vient fracasser toutes nos belles croyances de mais comment vont-ils faire pour s'en sortir et avoir un métier derrière ? Donc j'entends bien toutes ces peurs auxquelles Sophie et son équipe doivent répondre. Et à la fois, plus j'avance, moi, à la fois dans ma spiritualité, dans ma relation avec mes enfants, plus j'ai une confiance absolue sur la vie, sur le chemin, et effectivement, je m'y retrouve. Et que si on leur faisait un peu plus confiance, je pense qu'ils s'en sortiraient peut-être nettement mieux.
Ah, De ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie.
On est toujours dans Big, on vient d'écouter Le Roi Lion. C'est un choix que tu as fait, toi, Céline. Pourquoi ce choix ?
Alors, ce choix, parce que pour moi, il représente beaucoup de choses, en fait. Dans une musique qui est en apparence pour les enfants, hein, parce que c'est un dessin animé assez classique. En tout cas, il fait partie de mes classiques avec mes trois loulous. Je trouve que dans les dessins animés et dans la sphère de l'enfant, il y a toujours deux lectures possibles. Et donc, dans cette musique, pour moi, il y a deux lectures possibles. Il y a le clin d'œil au dessin animé, qui est une belle philosophie sur la vie quand même, la transmission, et une belle notion de spiritualité dans Le Roi Lion, voilà, avec l'apprentissage de ce petit lion qui devient grand. Et à la fois, voilà, c'est une lecture aussi très, très enivrante énergétiquement, pour reprendre les mots du début, où on a à la fois toute cette sensation d'ancrage à la terre, voilà, toutes les origines, donc c'est ces rythmes, et à la fois cette musique un peu classique. C'était l'échange qu'on avait en aparté avec Sophie, où effectivement, quand on va écouter cette symphonie musicale, ça peut nous transporter aussi très haut. Donc pour moi, c'est très symbolique de notre ancrage terre-ciel, et à la fois de cette grandeur que les enfants voient bien avant nous.
Justement, est-ce que vous diriez l'une et l'autre que les enfants sont des êtres particulièrement spirituels ?
Je pense, oui. Très honnêtement, je pense que ouais, ce sont des éponges. Après, c'est mon ressenti. Hein. J'y connais rien en particulier en scientifique. Voilà, mais mon ressenti, oui, c'est, je pense très sincèrement que les enfants sont des éponges.
Oui, alors moi, ça va être un énorme oui, effectivement, parce que bah, les côtoyants, donc les miens, et puis les enfants que j'accompagne, ou les échanges que je peux avoir avec des familles, un enfant est effectivement un être spirituel, dans le sens qu'un enfant naît spontané, intuitif, créatif, et que malheureusement, après, voilà, il est plus ou moins façonné par ses expériences éducatives et sociétales. Un enfant, il est instinctif, donc en ce sens-là, pour moi, il est spirituel, c'est-à-dire qu'il sait savourer une toute petite chose, et que voilà, tout prend son sens, et qu'il réagit aussi émotionnellement très vite à une frustration ou à une joie. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, en fait, que cette spontanéité de l'enfant.
Ben c'est vrai que souvent on dit des enfants qui devinent des choses sans qu'on les leur évoque, souvent même des choses qui peuvent les troubler, les déranger.
Oui, tout à fait. Enfin, voilà, pour moi, un enfant est branché sur ses cinq antennes sensorielles, et il fonctionne beaucoup plus en mode intuitif que l'adulte. Donc, c'est toute la difficulté, une fois qu'on est devenu adulte, d'apprendre à refonctionner comme un enfant, mais ça se fait. Oui, c'est un enfant, je reprends les mots de Sophie, est une éponge, c'est-à-dire que moi, je parle d'antenne parabolique, hein, mais on n'est pas loin. Donc, il va capter toutes les informations qui l'entourent. Et après, ce qui est difficile pour lui, c'est qu'il n'a pas forcément, effectivement, la sphère analytique de son...
qui correspond au ressenti qu'il reçoit. Mmh. Et c'est là qu'effectivement, ça peut devenir plus compliqué pour lui.
Comment toi, tu accompagnes les enfants donc, à haut potentiel dont tu nous as parlé?
Justement, je vais très rapidement sur la sphère de la spiritualité et l'énergétique. Donc, au-delà des facettes, coaching, thérapie comportementale, enfin voilà, toutes les petites astuces, les outils qui existent aujourd'hui, ce sont souvent, voilà, moi, dans mon vocabulaire de coach intuitive. Alors, je prends le mot âme, je ne mets absolument aucune connotation religieuse derrière. C'est pour moi l'essence qu'il y a dans la voiture. Les enfants dits à haut potentiel, je les appelle plutôt des enfants connectés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est souvent des vieilles âmes, en fait, qui reviennent et qui reviennent avec une mémoire des choses. Donc, ils savent beaucoup de choses beaucoup plus vite que certains parce que l'éveil intuitif se met en place plus tôt. Donc, ils captent énergétiquement beaucoup de choses. Ils savent ce qui va se passer. Ils ont beaucoup de connaissances en eux. Le challenge, c'est d'aller parler justement à cette sphère intuitive énergétique et leur montrer qu'ils ont le droit, en fait, de s'exprimer, même s'ils sont dans un carcan éducatif un petit peu, des fois, figé.
Voilà. Toi, Sophie, comment tu imagines intégrer l'éveil à la spiritualité dans l'école démocratique?
Moi, je pense que je ne vais rien intégrer du tout. Ils vont l'apporter, en fait, tout simplement, que nous, on n'a rien à faire. C'est juste que cette école laissera ça venir. On n'ira pas le développer. Enfin, ce n'est pas à nous, encore une fois, de le mettre dans l'école. Ils vont l'apporter. Ils vont venir avec qui ils sont. Mmh. Et on accompagnera ça. Je pense que c'est super important. Et on fera venir des gens comme Céline à l'école. Et puis nous, nos ressentis, enfin, juste écouter, accompagner ces jeunes dedans. Et je pense que c'est important aussi de bien se rappeler qu'on a tous été des enfants. Donc nous avons tous eu ça. Après, on en a fait des choses différentes. Parce qu'on parle souvent les enfants. Voilà, et nous avons été des enfants. Et on le reste un peu toute sa vie, je pense. Donc... voilà, ce sera écouter ça, l'accueillir et en faire ce qu'ils ont envie d'en faire. Mmh.
Ton émission, elle parle d'éducation positive. Mmh. C'est une éducation. On entend beaucoup parler d'éducation positive. Il y a des tas de livres qui sont sortis sur le sujet, des blogs, des forums. Je sais même qu'il y a le Conseil de l'Europe qui considère cette approche comme l'approche éducative la plus à même de respecter les droits de l'enfant. Mais qu'est-ce que c'est au juste alors que l'éducation positive?
Alors c'est beaucoup de choses, l'éducation positive, moi je mets derrière que c'est travailler sur ses forces plutôt que travailler sur ses faiblesses. C'est tout simplement travailler sur ce qui va plutôt que de travailler sur ce qui ne va pas. Et au-delà de ça, c'est aussi un vocabulaire, c'est une façon de vivre. C'est dire des phrases positives, dire à nos enfants ce qu'ils ont le droit de faire plutôt que leur dire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Qu'on nous dise où aller plutôt que de nous dire où ne pas aller. Voilà, c'est vraiment c'est une autre façon de voir la vie. Ça a été, là, Céline, on parlait du coaching, et ça a été vraiment ça, en fait, la révélation, de dire, ah ouais, en fait, on peut changer les choses par nous-mêmes, juste déjà en changeant ces phrases-là. Et ça fait changer la vision de la vie. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'apporter aussi aux enfants, et aux jeunes, et aux adultes, d'ailleurs, de réussir à changer juste ce vocabulaire. Ça change la vie, en fait.
Tu peux nous donner des exemples de petites phrases positives?
Ouais, il y en a plein. Juste avec les enfants, les exemples premiers, c'est arrête de monter sur le canapé, arrête de courir. Qu'on dise à nos enfants où ils ont le droit de sauter. Évidemment, nos enfants ont envie de sauter, comme tout le monde, comme tous les enfants. Ou crier. Oui, tous les enfants ont envie de crier. Alors, autant donner une possibilité à nos enfants de savoir où on a le droit, et en plus, ça crée aussi des règles. Parce que l'objectif n'est pas d'avoir des enfants rois qui font n'importe quoi, et voilà, parce qu'on a tous besoin d'un cadre. Mmh. Et donc, ça aussi, ça permet de cadrer les choses. C'est voilà, la règle, c'est quoi? Où est-ce qu'on a le droit de crier? C'est dehors. C'est, je sais pas, après, chacun fait comme il veut, à une pièce, ou voilà. Où on a le droit d'exprimer ses émotions? Donc, oui, on a le droit d'être en colère, oui, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être joyeux, on a le droit d'être émerveillé. En revanche, voilà, il y a un cadre parce qu'on vit dans une société, on vit dans une famille, on vit avec des gens. Et donc, voilà, tout ça, ça permet en plus d'apporter un cadre.
C'est bien que tu rappelles ça, oui, parce que souvent, l'éducation positive, elle est parfois taxée de laxisme.
Oui, parce que ça fait peur aux gens aussi. Donc, quand ça fait peur aux gens, on aime bien mettre des trucs qui font peur aussi aux autres. Comme ça, c'est vachement plus drôle. Alors qu'en fait, non, c'est juste voir la vie du joli côté. Et en même temps, ça apporte des règles, un cadre qui est juste bienveillant et joyeux. Voilà. Merci. Thank you.
toujours dans Bigre sur JTFM et on parle de la dimension spirituelle de l'enfant. Alors quand on parle de la dimension spirituelle de l'enfant, tout de suite ce qui nous vient en tête aussi, c'est les nombreuses questions existentielles des enfants. Donc j'en ai relevé quelques-unes qui sont de vraies questions, de vrais enfants. Alors par exemple, pourquoi le soleil n'a pas de tétine quand il va se coucher ? Est-ce qu'on mangeait des frites à l'époque des chevaliers ? Pourquoi on n'est pas des lézards ? Pourquoi les riches des pays riches ne donnent pas un peu d'argent aux pauvres des pays pauvres ? Pourquoi le temps passe ? Pourquoi l'eau s'amouille ? C'est quoi la vie ? Qui a inventé Dieu ? Quand la terre sera détruite, que va bien pouvoir faire Dieu ? Dis papa, c'est comment quand on est mort ? Mais maman, est-ce que moi aussi je vais mourir ? Est-ce que toi aussi tu vas mourir ? Pourquoi quand vous serez vieux et que vous serez au ciel, je ne pourrai pas venir avec vous ? Pourquoi certaines grandes personnes veulent mourir ? Alors qu'est-ce que vous répondez, vous, à telle
question ? Là, il y a plein de questions.
Ah, il y en a plusieurs. Ouais. Moi, dans ce que j'entends déjà, voilà, il y a deux catégories de questions qui cherchent du sens, en fait, chez ces enfants. Il y a tout ce qui est autour de ce qui nous entoure, la grandeur, l'univers, la nature, donc le soleil, tout ça, l'équilibre, les riches, les pauvres. Donc voilà, il y a cette partie-là, pardon. Et puis, il y a les autres questions qui vont être plutôt sur les questions existentielles, le sens de la vie, quand est-ce que ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc voilà, moi, si j'avais une réponse à faire, je séparerais en fait dans ces deux grandes catégories. Alors après, ce qui serait rigolo, c'est de répondre à chaque question, mais on ne va pas forcément avoir le temps. Sur la partie existentielle, sur le monde qui nous entoure, alors moi j'adore en fait, quand mes propres enfants me posaient ces questions-là, on est toujours très surpris en fait, parce que ça arrive toujours dans des moments bien précis où on ne s'y attend pas du tout. C'est vrai que dans cet univers connecté, on pourrait, on le dit en rigolant, se connecter sur Google et aller chercher des questions. Alors pourquoi je dis ça ? Moi une fois, j'ai eu mon fils qui m'a demandé combien il y avait d'arbres dans la forêt amazonienne. Donc je vois tout à fait le genre de questions qui nous laissent sans mots. Donc moi, voilà, les réponses que j'ai plutôt tendance à apporter sur ces questions-là, c'est de demander à l'enfant ce qu'il en pense, en fait. Voilà. Donc, c'est une petite technique de coach, c'est vrai, mais de lui dire, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, d'après toi, voilà, pourquoi les riches donnent pas aux pauvres ? Et souvent, en fait, ils sont bluffants dans leurs réponses, c'est-à-dire qu'ils vous donnent des choses auxquelles vous auriez même pas imaginé qu'ils auraient pu penser. Et dans ces questions-là, en fait, souvent, c'est la grande lucidité de l'enfant qui ressort. Et on se rend compte qu'on n'est pas obligé de leur parler comme des petits gamins qui ne comprennent rien. Donc, je le dis avec de l'humour, mais derrière, la réponse à apporter, c'est soyez le plus précis possible dans ce que vous savez. Et si vous ne savez pas répondre, en fait, cherchez avec l'enfant. Moi, c'est toujours ce que j'ai appliqué et ce que je préconise aux parents. C'est au contraire, c'est gage de, c'est très rassurant pour l'enfant de se rendre compte que l'adulte n'a pas réponse à tout. Donc, il n'y a rien de pire que de ne pas répondre. Donc, on entend la demande de l'enfant et à la fois, voilà, écoute, moi, je pense que c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? On n'a pas forcément la réponse. Est-ce que tu veux qu'on aille chercher ensemble ? Donc, aujourd'hui, il y a Internet, c'est vrai que c'est facile. C'est peut-être plus facile que le gros dictionnaire. Mais, en l'occurrence, si je reprends mon exemple sur la forêt amazonienne, effectivement, mon fils n'avait que 5 ans, on a été sur Google, on a cherché forêt amazonienne, voilà, et il s'est rendu compte qu'il y avait des superficies, qu'il n'y avait pas le nombre d'arbres, puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure où on essayait de trouver, ça l'a gonflé, et il s'est dit que sa question n'avait pas forcément d'utilité profonde. Voilà. Donc voilà la conclusion de l'histoire, c'est-à-dire on ne frustre pas l'enfant, on fait tout pour y répondre, et à la fois on l'aide à prendre du recul. Donc ça, c'est la première catégorie de questions. La deuxième, pour moi, elle est beaucoup plus importante et elle nécessite vraiment des réponses parce que ce sont des questions existentielles qui font écho à une question de sens pour l'enfant. Notamment, donc on parlait de spiritualité, l'enfant a besoin à un moment donné de se raccrocher à où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui existe autour de lui. C'est cette notion de vie, de temps, c'est très difficile pour les petits et à la fois, il y en a qui la chopent très très tôt. Là, il n'y a rien de tel que de parler aussi avec des mots très simples, mais de ne pas être dans le tabou. Voilà, effectivement, on a une durée de vie, on est un être humain, donc je reprends l'image de la voiture. Alors forcément, émotionnellement, ce n'est pas la même chose. Mais les enfants sont très tôt confrontés aussi à des pertes d'animaux, à des pertes d'objets. Donc c'est cette notion de durée de vie Après, là, ça va appartenir à chaque famille, à chaque parent, en fonction de ses propres croyances. Donc, il y en a qui vont aller dans la religion, il y en a qui vont aller dans il y a plus rien derrière, il y en a qui vont aller sur des notions de spiritualité. Alors, moi, c'est plutôt sur ce champ-là que je réponds. En tout cas, c'est comme ça que j'ai répondu au mien. Donc, moi, je parle d'énergie. Donc, je prends toujours l'image de la voiture. Bah, quand il n'y a plus d'essence dans la voiture, et bah, à un moment donné, l'énergie, elle retourne un petit peu dans le grand tout, elle se balade. Et puis, un jour, elle décide de revenir dans une autre voiture, elle change de modèle. Voilà. Donc, c'est des mots très simple, en tout cas moi ça a toujours répondu au mien. Et puis bah après des fois ils sont surprenants aussi dans leurs interprétations, hein. On parlait tout à l'heure des enfants qui peuvent être des vieilles âmes, des fois ils vous surprennent dans leurs réponses, des fois ils savent plus de choses que vous. Voilà, vous répondez de façon assez large et synthétique sur toutes ces merveilleuses questions.
Donc, tu conseilles de pas mentir, de pas édulcorer la réalité ?
Alors, non, il y a rien de pire pour un enfant que de botter en touche et de lui raconter quelque chose qui ne tiendrait pas la route. Parce que quand l'enfant pose la question, c'est qu'il est prêt, en fait. Hein. Donc, moi, dans mon approche de l'intuition et de la spiritualité, c'est important de ne pas aller au-devant des questions. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller alimenter des angoisses. Par contre, quand la question arrive, c'est que l'enfant est prêt à entendre. Donc, c'est l'aider aussi à passer ces étapes d'angoisse, la mort, la peur de l'accident, la peur de disparaître, pour ses parents, c'est quelque chose qui est réellement très angoissant. Moi, j'ai jamais menti à mes enfants. Je leur ai dit, effectivement, oui, c'est possible que maman, elle s'en aille. Mais je te rassure, j'ai pas du tout l'intention de le faire et je vais faire tout ce qu'il faut pour que je fasse attention dans ma vie, pour que ça n'arrive pas. Et c'est comme ça aussi, à mon sens, qu'on accompagne l'enfant pour pas qu'il développe des peurs, en fait. De lui dire que, bah oui, c'est vrai qu'il peut lui arriver quelque chose, mais est-ce qu'il a envie de passer toute sa vie enfermé dans son lit pour autant ? Non, très rapidement, il va avoir envie de faire plein de choses. Donc, c'est montrer la vie, comme le disait Sophie, avec la vie, bah, c'est un fabuleux parcours. Il y a des embûches, il y a des choses sympas, des choses moins sympas, mais on est quand même là pour vivre. Donc, faut prendre la vie dans sa globalité. Voilà.
Toi, Sophie, est-ce que tu as eu aussi affaire à des questions un peu déroutantes d'enfants, parfois ?
Oui, ça m'est arrivé et j'ai la même réponse que Céline sur... Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Je commencerai déjà par là, parce que c'est ça qui est aussi important. Et que ma réponse a une importance, effectivement, potentiellement, sur des choses fondamentales telles que la mort. Et encore, cette réponse, elle m'appartient. Donc voilà. Et puis après, c'est nos croyances à tous. Là, on parle de spiritualité. Je pense sincèrement qu'on vient sur cette terre pour... dans une enveloppe corporelle qui est la nôtre, pour venir travailler sur des choses. Et qu'effectivement, la mort fait totalement partie de la vie, autant. Enfin, voilà, comme il y a la joie et la tristesse, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Elles sont là, toutes les deux. Donc voilà. Et puis après, le reste, pourquoi la lune n'a pas de tétine ? Comment on pourrait savoir ça ? Et c'est tout la démarche de l'école démocratique. Pourquoi ? Je peux apporter quelque chose et en même temps, j'en suis pas certaine. Donc, c'est aller voir par lui-même pourquoi la lune n'a pas de tétine. Voilà, qui laisse sa propre réponse. Parce qu'en plus, la réponse, elle peut aussi être très drôle et très second degré. Alors qu'en adulte, généralement, on essaie de revenir à des choses très terre-à-terre. Bah, d'après toi, évidemment, la lune ne peut pas avoir de tétine. Alors qu'en fait, et pourquoi pas, qu'est-ce que ça peut faire ? Enfin, voilà, il y a effectivement les deux réponses, enfin, les deux questions différentes. Et toutes les réponses sont possibles. Après, il y a des choses, effectivement, la vie, la mort, il y a des choses qui font partie réellement de la vie. Et les autres, l'imagination fait aussi partie de la vie. Donc, voilà, les laisser croire... dans la limite du possible, ce qu'ils veulent.
Alors, toutes les deux, vous avez parlé d'âme, d'esprit, d'enveloppe corporelle. Mmh. Je vais rebondir un peu là-dessus. Il y a plusieurs traditions spirituelles qui enseignent que l'âme de l'enfant choisit ses parents. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi, j'adhère plutôt avec ces courants-là. C'est-à-dire que pour moi, les enfants sont des êtres spirituels, comme on l'a dit. Et en fait, ils choisissent quelque part le chemin de vie. Alors, dans ces grandes lignes, hein, tout n'est pas établi à l'avance. Et que souvent, effectivement, l'enfant, l'âme, en fait, qui a choisi ses parents, est là pour à la fois lui apprendre des choses, donc aller chercher dans son potentiel de développement les choses qu'il a encore à travailler énergétiquement, émotionnellement. Et à la fois, il va être là pour faire bouger les parents. C'est-à-dire que les parents n'ont pas des enfants non plus par hasard, et que souvent il y a des effets miroirs où il y a des enfants qui peuvent être plus ou moins en apparence difficiles, mais qui sont là justement pour forcer les adultes à sortir d'un conditionnement, d'un cheminement préétabli. Donc moi, personnellement, voilà, je suis plutôt convaincue de cette approche et que de toute façon, dans la logique spirituelle des choses, alors je fais exprès, hein, logique et spiritualité, on a l'impression que ça ne va pas ensemble. Et pourtant, pour moi, c'est mon quotidien. C'est un chemin. La vie est un chemin, mais la vie avec un S, peut-être. Voilà. Donc après, ça va dépendre des croyances de chacun, mais on est là pour expérimenter, on apprend. Voilà, c'est comme une partie du jeu de société. On lance des dés, des fois on gagne, des fois on perd, et puis des fois on change de jeu, tout simplement. Voilà.
Sophie, est-ce que ça te parle aussi?
Oui, je suis complètement d'accord avec ça. J'en suis complètement persuadée qu'on choisit nos parents et que nos parents travaillent des choses aussi, évidemment, travaillent des choses avec leurs enfants. Je le vois et. Enfin, pour moi, c'est une évidence, en fait, aujourd'hui, de savoir que oui, on vient s'incarner avec nos parents pour quelque chose, et pour eux, et pour nous, clairement.
Comment cette évidence, elle s'est imposée à vous ?
Ah, alors moi, j'ai un exemple très concret, parce qu'alors, en fait, il y a 10 ans, ça ferait rire mes sœurs, j'étais la moins convaincue de tout ça. Hein, donc, j'étais encore dans mes dogmes de croyances religieuses. Enfin, voilà, bon, moi, il y avait plein de choses comme ça. Donc, j'avais du mal à les suivre. Hein, me parler de vie passée, d'incarnation, tout ça. Je dis, oh là là, vous allez où, les filles? Ça va pas bien. Enfin, bref. Et puis, bah, j'ai fait mon expérience, je suis devenue maman, enfin... Je vous le fais en accéléré. Et puis, voilà, il y a ma fille petite qui pleurait beaucoup la nuit, qui se réveillait. Voilà, j'entendais des choses. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me levais, j'allais voir. L'Audi baby, avait bien sonné, mais il n'y avait rien dans la chambre. Bref. Bon, 3 fois, 4 fois, 5 nuits, 6 nuits, jusqu'à un moment donné, écouter ma petite voix intérieure quand même, qui m'a fait comprendre qu'on voulait juste éveiller ma curiosité sur le fait qu'il se passait peut-être des choses non palpables dans ma maison et qu'il était peut-être temps que je me mette au boulot sur cette sphère énergétique, n'est-ce pas? Et puis le jour où j'ai compris et que donc je me suis adressée à l'univers, voilà, en disant c'est bon, j'ai compris que j'avais quelque chose à faire, arrêter de passer par ma fille, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc voilà, moi j'en ai fait mes conclusions. Donc mon mari m'a dit que c'était des coïncidences parce qu'il est beaucoup plus cartésien que moi. Moi, ce jour-là, j'ai eu confirmation qu'effectivement, ça passe par nos enfants. Voilà. Un deuxième exemple, c'est lorsque j'ai fait un soin Reiki à mon fils qui avait 10 ans et qui effectivement, du coup, a vécu son soin. C'était chouette, sauf qu'il s'est mis à me raconter plein de choses, en fait, d'autres vies, hein, donc très détaillées. Et là, ça fait un drôle d'effet quand votre fils de 10 ans vous dit de toute façon, maman, je suis bien plus vieux que toi et je suis là pour t'apprendre des choses. Mais il était très sérieux et se souvient pas de ce qu'il m'a dit après. Donc voilà, donc pas de panique. Hein. Voilà, dans la sphère énergétique, c'est des choses assez classiques. Donc moi, ça m'a parlé. Mais c'est juste effectivement venu conforter tout ça que, bah oui, le chemin des âmes, en fait, on ne rencontre pas les âmes par hasard sur nos chemins de vie, effectivement.
Toi, Sophie, est-ce que tu te souviens aussi ?
Il y a plein de choses, en fait. J'ai été éduquée dans la religion catholique, donc j'ai toujours cru à beaucoup de choses, voilà, que j'ai toujours cru en la vie après la mort, mais sans trop savoir. Enfin, oui, quand on va tous se retrouver, c'est génial, le paradis, voilà, il y a les gentils, il y a les méchants. Et puis après, il y a eu un travail perso, entre autres le travail avec Céline aussi, qui a fait que confirmer les choses auxquelles je pense, je croyais depuis très longtemps, mais voilà, on avait mis ces mots-là pour moi, donc bah voilà, très bien, ça me va, je réponds aux besoins de mes parents, donc ouais, bah allons-y, très bien. Et puis en fait, à partir du moment où vous répondez à vos propres besoins, vous commencez à vous connaître, et bah là, vous faites, ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout ça, moi je mets pas un dieu derrière ma spiritualité, ou ce qu'on appelle la religion, bah non, moi je pars aussi maintenant de l'univers, et que pour moi, c'est pas un dieu, c'est que, oui, on vient s'incarner, oui, on vient travailler sur des choses... Voilà, j'ai pas réponse à tout, j'ai réponse à beaucoup de choses selon moi. Moi, ça répond à mes propres questions. Voilà, c'est un chemin de vie en fait. Et puis, c'est de voir les choses. Je vois bien que je fais travailler des choses chez mes parents, chez mes frères et sœurs, chez mes sœurs, là entre autres. Ça se voit dans toutes les familles. Quand vous parlez avec vos amis, vous voyez bien que ça vient chahuter, oui, les frères et sœurs, les parents, les grands-parents. Et en plus, avec le chemin de vie potentiellement que j'ai, je vois bien qu'effectivement, ça perturbe des choses que moi-même, c'est pas toujours facile de voir pourquoi on est là, les émotions qui sont là, pourquoi ça nous envahit, c'est quoi tous ces cycles qui viennent nous perturber, qu'on soit femme ou homme. Hein. Voilà, c'est quoi tout ça ? Oui, bien sûr que c'est... Enfin, aujourd'hui, c'est une évidence, en fait, tout ça. Voilà. Merci.
Sur Jet FM et on parle aujourd'hui de la dimension spirituelle de l'enfant. On parle en particulier du lien entre l'éducation positive et l'éveil à la spiritualité. Sophie, toi, comment tu fais ce lien ?
Alors, je fais le lien parce que l'éducation positive, c'est mieux se connaître. Connaître ses forces, connaître ses faiblesses, pourquoi on est là, notre chemin de vie. Et donc, ça fait partie effectivement de la spiritualité dans un certain sens. Ça fait partie de la connaissance de soi, je pense.
Moi, je voulais vous parler aussi de la toute-puissance de l'enfance. Souvent, l'enfant essaye de soumettre le monde qui l'entoure à son bon vouloir. Il est déjà dès le nourrisson, quoi. Il exige le sein de sa mère qui lui arrive quand il le demande. Et tout en grandissant comme ça, l'enfant a souvent des pensées magiques. Je voulais vous interroger sur le lien entre ces pensées-là et ce qu'on appelle la loi de l'attraction.
Alors, moi, je ne parlerai pas de toute puissance chez l'enfant. Ça, pour moi, c'est une interprétation de notre vision, nous, d'adultes. Je pense, au contraire, c'est ce que j'ai exposé au tout début, c'est que l'enfant est en mode instinctif et intuitif. Donc l'enfant, effectivement, lorsqu'il arrive, n'a pas conscience de l'environnement dans lequel il est et a unique fil conducteur de répondre à ses besoins. Donc ça peut apparaître comme de la toute-puissance, effectivement, par rapport aux gens qui l'entourent, mais l'enfant n'est pas dans cette recherche-là. En tout cas, ce n'est pas du tout volontaire. Il est plutôt
centré sur lui. Effectivement, il est dans une écoute tellement intuitive que j'ai faim, je veux manger, je suis triste, je pleure, j'arrive pas à dormir, je pleure, j'ai besoin d'un câlin, je me sens pas rassurée. Donc c'est vraiment plutôt de l'instinctif et de l'instantané. Après, il arrive des âges où l'enfant grandit et prend conscience de son entourage, et c'est là aussi où l'entourage a une importance. Donc Sophie parlait de cadre, c'est le virage à prendre entre ce mode de fonctionnement centré sur soi et le mode de fonctionnement en collectivité, en société ou dans une sphère familiale. Et là, c'est le positionnement de l'entourage qui va être important, c'est-à-dire que c'est à l'entourage de justement mettre des limites, un cadre, mais pas forcément en le verbalisant de façon négative, plutôt de rassurer l'enfant et d'être dans cet accompagnement bienveillant pour lui faire prendre conscience que ses besoins sont primordiaux, c'est-à-dire qu'il a raison de penser à lui d'abord, mais que ça ne l'empêche pas de regarder s'il y a d'autres besoins autour de lui. Donc je parle pas de toute puissance. L'enfant peut arriver à de la toute puissance quand justement il n'a pas eu de personne autour de lui pour jouer à cet effet miroir et lui faire prendre conscience qu'il y a d'autres personnes qui sont également en recherche de satisfaire leurs propres besoins. Voilà, je sais pas si c'est clair dans ma réponse, mais voilà, c'est une petite subtilité et c'est tout le jeu en fait du positionnement sur ce grand tout qui nous entoure. Voilà. Il y a une partie sur laquelle je n'ai pas répondu, je reviens. Donc effectivement, la pensée créatrice, là où effectivement l'enfant est très fort, c'est qu'à partir du moment où il n'a peu de filtres et qu'il est dans l'instant présent, effectivement, il va rejoindre ce qu'on appelle la pensée créatrice et la visualisation positive. S'il a très envie de quelque chose, vu que pour lui tout est possible et qu'il croit en ses rêves, généralement, énergétiquement, il va tout mettre en œuvre pour l'obtenir, effectivement. Mais ce n'est pas ce que j'appelle de la toute-puissance.
Oui, je crois que l'exigence dont tu parles... C'est au-delà de l'exigence. Oui, un enfant pleure parce qu'il a faim et que en fait c'est juste son besoin. Donc oui, après pourquoi on fait des enfants, voilà, il y a ça aussi, hein, je crois. Oui, ça prend de la place et que ça a besoin d'une attention particulière et extrêmement importante au départ. Après, ça c'est voilà, c'est un choix de parents d'avoir des enfants et d'accorder ce temps. Après, encore une fois, effectivement, on en revient à ce cadre-là. Tout est possible, effectivement, et en même temps, on vit en société, on vit en groupe, et que c'est la plus belle chance et le plus bel amour qu'on peut donner à ses enfants que de créer ce cadre, qui effectivement, je pense, c'est indispensable qu'il soit bienveillant, mais qu'il soit là, et on est des accompagnateurs, tous. Dans la vie, qu'on soit parent, qu'on soit frère et sœur, qu'on soit oncle et tante, ami, voilà, on s'accompagne dans cette vie. Donc comment on s'accompagne en bienveillance dans la vie.
Thank you.
On est toujours dans Bigre sur Jet FM et on parle aujourd'hui de la dimension spirituelle de l'enfant. On parle en particulier du lien entre l'éducation positive et l'éveil à la spiritualité. Si je reprends la présentation de l'école démocratique... Ah, d'ailleurs, petite question, est-ce qu'il existe des écoles démocratiques comme celles que vous êtes en train de créer ailleurs ?
Alors, le principe de l'école démocratique, oui, il y en a une trentaine en France, trois à Paris, entre autres. Après, ce que j'ai apporté, ce que j'ai créé, c'est le lieu des possibles, dans le sens où c'est une école démocratique, donc là, jusque-là, on n'invente rien. C'est juste qu'on a apporté un potager en permaculture dès l'ouverture de l'école, et puis un retour tout simplement à la terre, hein, au-delà du potager. C'est un retour à la terre, parce que beaucoup d'écoles n'ont pas forcément beaucoup d'extérieur, alors que ma priorité est vraiment l'extérieur, donc je ne prendrai pas un local si l'extérieur n'est pas vraiment important. Donc ça, c'est une grosse facette quand même du projet du lieu des possibles. Et deuxième apport personnel, c'est une pépinière de jeunes entrepreneurs dans le lieu de l'école. Donc ça a été un choix très personnel, donc de créer cette... mélanger, c'est toujours le même principe, en fait, de... Il n'y a pas de classe, on est juste ensemble, de 3 à 19 ans. On est à l'école, on est avec des entrepreneurs, on est avec des adultes, on est avec des enfants, on est avec des plus vieux, des plus jeunes. Enfin voilà, c'est le sens de la vie, en fait. Pour moi, c'était ça, c'est créer des mini-sociétés, finalement. De « on est tous ensemble ». Et donc ça, c'est le projet, le lieu des possibles.
Si je reprends la présentation, donc je vois qu'il y a le retour à la terre dont tu parlais,
tout à fait.
L'autonomie et la liberté d'apprentissage, oui. L'autogestion et la connaissance de soi, le fonctionnement horizontal et démocratique, et donc la classe unique multi-âge de 3 à 19 ans. Donc ça veut dire que tous les élèves seront dans une seule et même classe.
Voilà, exactement. Je ne sais même pas si on parle en tant qu'élève, on parle en tant que jeune, enfant et jeune. Il n'y a même pas de classe, en fait. On va tous vivre dans un lieu dans lequel on va vivre sa liberté. Et je crois que l'école, justement, a besoin de retrouver cette place d'apprentissage multiples. Il n'y a pas de bon apprentissage, il n'y a pas de mauvais apprentissage. Il y a des apprentissages et donc, voilà, les jeunes vont venir tous les jours et puis ils vont faire ce qui les anime, ce qu'ils ont envie de faire et s'ils ont envie de passer du temps. Et je crois que c'est important. On a plein d'enfants qui passent des heures et des heures à faire des dessins, des heures et des heures à faire du vélo, à faire de la console. Et c'est qu'ils en ont besoin, donc qu'ils y aillent. Et je crois que l'école est là pour ça. Donc c'est ça aussi la création de cette école, c'est permettre aux jeunes de vivre leur vie, et je crois que c'est à ce moment-là qu'on doit le vivre. Donc, apporter cette possibilité-là, ça permet de la faire à un âge où je pense que c'est important de le faire, et qu'après, chaque étape de la vie apporte des choses. Et donc, on passera peut-être un peu plus de temps à l'âge adulte à se consacrer à ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce qu'on est passé par toutes ces étapes et qu'on a eu le temps de faire ces expériences avant.
Et comment cette école se situe par rapport aux écoles Steiner, Montessori, ou même à l'instruction à la maison, l'instruction libre à la maison ?
Alors, l'école démocratique, c'est un peu l'école à la maison, mais à l'école, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a ce cadre-là qui est apporté dans l'école, qu'il n'y a pas forcément dans une famille. Donc, c'est un apprentissage libre également, sauf que là, on est avec des accompagnateurs et non ses parents, qu'on vit avec d'autres jeunes, et je pense que c'est important aussi, parce que c'est ça la magie de ces écoles-là, d'être avec d'autres jeunes, d'âges différents, d'univers différents, d'horizons divers, en fait. Et c'est ça la richesse de la vie. Donc voilà, et après la différence s'il y en a avec Steiner, Montessori, c'est que ce sont des outils et des méthodes Et là, nous, on n'a pas une pédagogie particulière, en fait. On va créer notre pédagogie. Donc, on n'enferme pas. Nous aussi, on utilisera des outils Montessori si les jeunes en ont envie, parce que je pense qu'il y a des choses très bien dans Montessori, dans les outils. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de case, il n'y a pas de... Voilà, on est la vie. Y a une ce sera la pédagogie de la vie. Donc, c'est nous qui allons la créer.
C'est fini, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.